Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série concernant que les mauvais esprits existent bel et bien. Nous en sommes à l'étude numéro 7 et notre titre sera pour aujourd'hui « Le spiritisme moderne et ses tendances ». Les spirites affirment que le spiritisme est le nouvel évangile destiné à révolutionner le monde à brève échéance. Ce sera une révolution sociale, religieuse et politique. Mais comme nous l'avons vu, le spiritisme, sous les différents accoutrements, a depuis longtemps régné dans le monde et depuis longtemps a produit de mauvais fruits sous toutes les latitudes. Il est donc vrai qu'il s'est écoulé environ 150 ans depuis les premières manifestations de coups frappés et de tables tournantes, et ce fut le point de départ de ce qui est actuellement connu aux États-Unis et dans le monde entier sous le nom de spiritualisme. Cela débuta par des bruits étranges dans une maison hantée. Ce furent les réponses adressées tout d'abord à une petite fille qui désignait l'auteur de ce bruit sous le nom de Vieux Sabot Fourchu. C'est bien dit de la part d'une petite fille. On ne comprend donc absolument bien. Les Vieux Sabots Fourchus. Ces manifestations sont devenues rapidement populaires. Des juges, des docteurs, des avocats, des pasteurs et des centaines de mille autres personnes sont devenus les adeptes de la nouvelle doctrine à tel point qu'amis et détracteurs prétendaient que le nombre de ses adhérents s'élevait à plus de, écoutez bien le chiffre, plus de 10 millions. Et on pense que ce chiffre est minime, car la réalité, elle est bien plus grande. Ces derniers croyaient à la survivance des morts et ignoraient les enseignements des Saintes Écritures au sujet des morts et l'interdiction formelle de communiquer avec des médiums. Ces personnes ne croyaient généralement pas aux esprits malins. Aussi n'est-il pas surprenant si des hommes et des femmes intelligentes, ayant acquis la conviction absolue que des pouvoirs surnaturels se manifestaient au milieu d'eux par des coups frappés, des tables tournantes, des inscriptions sur des ardoises, des réponses faites par les médiums à des questions posées, des visions surnaturelles, etc., et donc acquis une foi complète en ces pouvoirs invisibles qui désirent converser avec eux et qui affirment être leurs amis défunts. Le résultat a donc été qu'un grand nombre de chrétiens ont donc succombé pour n'avoir pas tenu compte des avertissements formels de la sainte parole de Dieu, la Bible, à cet égard. Dès le début, les esprits paraissent s'être comportés, on peut dire d'une manière vraiment très habile, en parlant de la Bible, conseillant même aux personnes pieuses assises aux séances spirites de lire plus assidûment leur Bible et de prier davantage, etc. Mais Voyez-vous, ceux-ci n'avaient d'autre but que de calmer leurs doutes et leurs craintes afin de mieux les dominer. Et peu à peu, les enseignements se relâchent et l'on a vu pour résultat qu'on a fait comprendre à l'étudiant qu'il était préférable pour les non-initiés d'avoir la Bible plutôt que rien du tout, mais qu'elle était inutile pour ceux qui étaient en communication directe avec les esprits et même ainsi devenait pour eux une entrave. Voyez comme l'ennemi est rusé, il est malin. Un écrivain, du reste très qualifié, a très bien caractérisé le spiritisme. Il a dit que c'est une œuvre systématique qui débute par des manifestations légères qui paraissent inoffensives et sans aucune conséquence grave et qui conduit finalement ses adeptes à renier tout simplement le Seigneur qui les a rattachés, à rejeter totalement la sainte parole de Dieu qui pourtant est demeurée éternellement le point crucial pour tout chrétien. Et nous voyons donc que sous l'apparence de procédés et d'artifices fantaisistes, il y a en réalité un plan méthodique bien arrêté, car le serpent ancien, qui est un menteur, cela dès le commencement, est tellement habile qu'il se sert comme base de ses communications légères et sans importance du début, par lesquelles il arrive à stimuler la curiosité, à inspirer de la confiance et à endormir les soupçons des âmes honnêtes mais bornées jusqu'au moment où elles sont entièrement à la merci de l'ennemi de toute justice. Ces démons qui personnifient les morts se sont rapidement rendus compte qu'on entrait dans une nouvelle dispensation ou économie ou encore une nouvelle période. Et ils adaptèrent rapidement leurs connaissances aux nouvelles exigences pour donner à leurs œuvres la plus grande extension possible. Ils ont déclaré ouvertement qu'une dispensation allait s'ouvrir et que le spiritisme était l'ange, en quelque sorte l'ange providentiel, à qui incombait le devoir de diriger avec sagesse les pas de l'humanité dans cette nouvelle période. Et ils affirment positivement, bien entendu, que dans la nouvelle dispensation, l'ordre social actuel serait complètement détruit et remplacé par le spiritisme érigé en institution universelle. Et ils sont même allés dans certains cas jusqu'à annoncer la seconde venue du Christ, pensant y trouver quelques avantages pour leur cause. Et ils affirment que, une fois que Christ était déjà arrivé, qu'il est déjà arrivé, voyez-vous, qu'il est donc déjà arrivé pour la seconde fois, et il se déclare disposé à accorder une communication directe avec Christ par le médium à tous ceux qui le désirent. Voyez-vous comme l'ennemi est rusé, malin, mais il est le prince des menteurs. alors un grand nombre de véritables chrétiens ont été heureusement préservés des embûches de cette œuvre diabolique parce que nous pourrions appeler leur propre sens spirituel qui leur a permis de se rendre compte qu'il avait dans le spiritisme quelque chose qui ne s'harmonisait pas du tout avec l'Esprit du Seigneur et avec celui de sa sainte parole. Nous avons l'assurance positive par la promesse de notre Seigneur qu'aucun des vrais consacrés, ceux qui lui sont consacrés, comme vous et moi, qui sont donc ses élus, il ne pourra être complètement séduit, nous ne serons pas complètement séduits. Et pour vous et moi, nous ne serons pas du tout séduits par ces choses. Nous les étudions simplement pour mieux pouvoir avertir d'autres chrétiens. Saint Matthieu 24, verset 24. On pourrait montrer par de nombreuses citations d'ouvrages spirites que ces derniers renient entièrement la Bible, qu'ils sont entièrement opposés à ses enseignements, qu'ils nient l'existence même de Dieu, se bornant à enseigner qu'il existe un bon principe, soi-disant, et que tout homme est un Dieu. Il nie la rédemption et la souveraineté de Christ, se bornant à déclarer qu'il était un médium spirite de degré inférieur. D'autre part, de nombreux témoignages de notabilités du monde spirite nous prouvent que les tendances du spiritisme sont extrêmement démoralisantes et nous bornerons à citer un exemple droit maintenant. C'est, et je prendrai le témoignage de E.J. F. Whitney, un éditeur du Pathfinder de New York. Il est difficile de récuser ce témoignage, car voyez-vous, son auteur a été pendant longtemps un fervent adepte, même un défenseur sincère et un avocat convaincu du spiritisme en relation suivie avec ses disciples. Et voici ce qu'il dit. Nous avons pu constater quelle transformation graduelle il accomplissait chez les fidèles en général et chez ces médiums plus spécialement, démoralisant et débauchant complètement des individus dont la moralité avait été jusqu'alors absolument parfaite, et en les détruisant graduellement d'une manière calculée, la base même de tout principe moral. Si nous jetons un coup d'œil en arrière, nous sommes stupéfaits des changements considérables produits en peu de mois chez certains individus, car une des tendances fondamentales du spiritisme est d'approuver et d'admettre tous les actes et tous les caractères individuels, que ces actes soient bons ou qu'ils soient mauvais. Et voici la conclusion de Whitney. Nous désirons jeter un cri d'alarme, et si notre modeste titre de directeur d'un journal public, si le fait d'avoir autrefois défendu le spiritisme, de l'avoir expérimenté, d'avoir joué un rôle en vue, même en vue, dans le monde spirit, d'avoir défendu sa cause en toute honnêteté et avec énergie, si tout ceci mérite quelques considérations, nous adjurons aujourd'hui nos lecteurs, nos auditeurs, de tenir compte de cet avertissement, et nous disons à tous ceux qui suivent passivement cette voie, vous êtes dans des rapides tourbillonnants qui vous mènent carrément à la perdition. Alors arrêtez-vous avant qu'il ne soit trop tard et préservez-vous de l'influence destructive de ces manifestations. Certaines personnalités spirites notables, spécialement des médiums femmes, car la plupart des médiums sont des femmes, parviennent à un degré d'immoralité si impudent et si effronté que tout ce qui possédait l'ombre de sens moral était carrément scandalisé. Et pendant un certain temps, le démonisme sous le nom de spiritualisme perclita, et maintenant, aujourd'hui, son passé est en partie oublié ou même renié, et il se ranime en quelque sorte sous le terme esprit séducteur, s'adapte donc exactement à la circonstance. Au début, ce ne sont que des amusements anodins, de la simple curiosité, et puis par des réponses faites parfois d'une manière parfaitement véridique à des questions posées, ils finissent par capter la confiance de leurs auditeurs, puis d'une manière naturelle, en apparence, ils anéantissent peu à peu toute volonté et asservissent complètement leurs victimes. Ils les tyrannisent d'une manière diabolique, les amenant à commettre toutes sortes d'excès. Donc, il existe, évidemment, heureusement, des bons esprits, comme les Saintes Écritures le déclarent ouvertement, et ce sont des saints anges qui ont pour mission de veiller sur ceux qui se sont entièrement consacrés au Seigneur. Mais ceux-là n'opèrent pas dans les ténèbres, surtout pas, ni par des médiums. Ils ont mieux à faire qu'à s'occuper de tables tournantes, à répondre par des coups frappés à des questions, on peut dire, ineptes, et à divertir l'humanité. Ne sont-ils pas tous, et je le pense, des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux chapitre 1, verset 14. Il y a un livre qui vient de sortir en allemand, traduit de l'anglais, une histoire absolument véridique, 100%, quelque chose de si merveilleux que on en a les larmes en le lisant. Ça s'est passé quand les tours du 11 septembre à New York se sont écroulées, et là, eh bien, une sœur a pu être délivrée des décombres par un ange. Une histoire authentique, véridique et très émouvante. C'est à Brunnenverlag, en Allemagne. Cette édition est très connue en Allemagne, mais si vous êtes de langue française, par une maison de Bible ou par une librairie biblique, si vous connaissez l'allemand ou l'anglais, vous pouvez donc l'obtenir à Brunnen Verlag, les éditions Brunnen Verlag. Ça n'existe malheureusement pas en français, mais c'est quelque chose de merveilleux. Nous n'avons d'ailleurs aucune autorisation de rechercher ou d'attendre des communications de ces saints anges gardiens. Car voyez-vous, la volonté de Dieu est que ses élus marchent par la foi et non d'après des manifestations contre nature, d'après des visions ou d'après certains bruits. C'est à cette fin qu'il a disposé de sa sainte parole afin qu'elle soit le trésor de toute connaissance auquel ces fidèles que nous sommes viendront s'approvisionner de nourriture au temps convenable, et il nous déclare que sa sainte parole est absolument suffisante afin que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. 2 Timothée, chapitre 3, verset 17. Nous pouvons ajouter que l'on doit considérer comme un sûr indice du mal à ses débuts ou déjà développé toute tentative faite par quelqu'un pour accaparer et asservir la volonté et l'intelligence d'un autre ou d'une autre, comme cela a lieu avec le magnétisme, l'hypnotisme, même si c'est par des médecins, les pratiques des médiums spirites, etc. Le Seigneur respecte notre individualité et y fait appel. Il nous adjure d'être en pleine possession de nous-mêmes, en harmonie avec les principes de justice contenus dans sa sainte parole. Et quant au spiritisme, il exige un abandon de toute maîtrise de soi-même en échange de l'asservissement à la volonté des esprits. Aucun individu assez prudent n'oserait abandonner à d'autres hommes la direction de sa volonté et de son caractère, et moins encore à des pouvoirs invisibles qui prétendent, je dis bien, être bons, être sages. Tout chrétien ayant la plus légère confiance dans la Sainte Bible et la considérant comme la Sainte Parole de Dieu, doit absolument refuser de se soumettre à ses influences en qualité de médium ou simplement de chercher, car les avertissements de la Sainte Parole de Dieu à cet égard sont formels. Ceux qui s'engagent dans la voie du spiritisme s'éloigne de Dieu et de la justice, et il s'abandonne au péché, qu'il ne le croit ou pas, et court à leur ruine mentale, morale et même physique. Une lettre d'une dame chrétienne qui est institutrice nous décrit un des procédés modernes les plus simples à éveiller l'intérêt et à persuader à chacun, à chacune, d'aspirer à l'état de médium parfait, à la possession et à la soumission complète. Et l'auteur de la lettre nous a dit ceci: j'ai eu dernièrement une expérience étrange et peut-être imprudente. Peut-être imprudente. Moi, je dis directement très imprudente. Bon, je suis peut-être un peu excessif. Alors, le frère de mon mari est spiritualiste. Il lit le journal Le Progressive Thinker, le penseur progressiste ou avancé. Il est entièrement convaincu, de la vérité de ses enseignements, et si je lui rends visite, il m'en lit des articles et me demande mon opinion, spécialement au sujet de ceux qui prétendent recevoir des messages d'amis, d'amis défunts, il faut le préciser, par l'entremise des médiums. Il ne m'était jamais entré dans l'idée que ça pouvait être des plaisanteries, comme beaucoup le croient, quoique il s'y mêle souvent beaucoup de supercheries, car la Sainte Bible enseigne clairement, me semble-t-il du reste, que les esprits ont le pouvoir de communiquer avec les humains. J'ai répondu à mon beau-frère que selon ma conviction, ces communications provenaient d'anges déchus qui personnifiaient les morts pour mieux tromper les hommes en les persuadant du vieux mensonge de Satan. Vous ne mourrez point. Mon beau-frère, n'acceptant pas du tout même, la Sainte Bible comme la Sainte Parole de Dieu, n'attache pas grande importance à mon opinion. Sa femme, qui est une croyante convaincue des études dans les Saintes Écritures, moi personnellement, j'aimerais pas avoir une personne dans ma famille qui pratique ces choses. Donc, sa femme, qui est une croyante convaincue des études dans les Saintes Écritures, est très peinée, je le serai aussi, de ses croyances, et tous les deux ont constaté que leur divergence d'opinion n'était pas précisément agréable, bien que sa femme évite ce sujet autant que possible en conservant sa fidélité à la vérité. Quelque temps auparavant, son mari acheta un psychographe. C'est un instrument qui va servir à communiquer avec les esprits, mais il ne savait pas très bien s'en servir. Il y a quelques jours, on m'a prêté cet instrument. C'est donc, vous l'avez compris, la dame chrétienne qui raconte ceci. Moi, je n'aurais même pas voulu toucher cet instrument, mais enfin, c'est comme ça. Alors, la dame chrétienne continue de raconter. Je m'aperçus tout à coup que je pouvais fonctionner comme médium et je résolus d'éprouver les esprits. Moi, personnellement, j'aurais pris mes jambes à mon cou, comme vous dites en français, et j'aurais décarpi plus vite que ça. Mais voilà. Alors, leur première révélation fut relative à l'existence d'une mine d'or, importante même, sur notre propriété. Comme je n'ai pas de propriété, j'aurai pas de mine d'or. Bon. Ce qui ne me surprit pas du tout, car on nous avait déclaré précédemment qu'il y avait en effet un filon d'or qui avait été suivi au travers de notre terrain. Et l'esprit indiqua même l'emplacement exact pour pratiquer des fouilles, le filon se trouvant à une profondeur de 2,30 m. Il était donc facile de vérifier. L'esprit ajouta quelques passages des Saintes Écritures, pourquoi pas, Colossiens chapitre 1, verset 4, verset 5 et chapitre 2, verset 4, et je m'informais de la signification de l'expression « discours séduisant ». Il me fut répondu « science chrétienne, spiritualisme, théorie d'Ingersoll, etc. » À ma demande, il indiqua son nom qui était Epaphras. Et cela ne plut pas beaucoup à mon frère, il désira entendre parler d'une personne morte qu'il avait connue autrefois. Je demandais, c'est toujours la dame chrétienne qui dit cela, je demandais si cette personne était présente. Il me fut répondu, oui, c'est Eastman. Ce nom m'était inconnu, mais mon beau-frère et sa femme, seuls présents en ce moment, le connaissaient très très bien. On lui demanda ce qu'il désirait nous communiquer, et il nous renvoya au passage, pourquoi pas, de Tite, dans la Bible, Tite, chapitre 3, verset 5, et nous assura que les enseignements des études dans les Saintes Écritures étaient vrais, mais qu'il avait été empêché de remporter le prix de l'appel céleste par ses richesses. Je ne pensais pas, déclara Eastman, je ne passais donc pas pour un bon chrétien, évidemment, quoique membre d'une église importante. Voyez-vous, on peut être membre d'une église et donc pratiquer ces choses. Je ne savais pas. Il faut remarquer ici que les esprits mauvais non seulement connaissent les événements actuels, mais peuvent aussi, dans certaines mesures, voir l'avenir d'assez près. Nous connaissons un cas où, dans l'intervalle d'une année, deux décès ont été prédits. L'une des personnes, elle mourut, elle est donc morte. L'autre est tombée très sérieusement malade, mais elle a pu se rétablir. Satan détient certains pouvoirs, mais ils sont tout de même limités, puisque une des personnes a pu se rétablir. Comparez, chers amis, Hébreux chapitre 2, verset 14, Psaume 97, verset 10, Psaume 116, verset 15, et Job chapitre 2, verset 3 à 6. Les expériences que j'ai faites me paraissent confirmer ce que vos enseignements nous disent, à savoir que ces communications proviennent des anges déchus. On ne peut avoir aucune confiance dans ces anges déchus, étant donné que leur père, c'est le père de tous les menteurs. Je ne voudrais pas avoir un tel père. Entre nous disant. On comprend alors que dans les derniers temps, ceux qui n'auront pas une foi à tout casser, en bon français à toute épreuve, ne pourront pas résister. Et nous voyons par ce qui précède quels sont les procédés insidieux de ces démons. Ils confessent Christ et la vérité comme on fait en son temps Satan, il le fait encore aujourd'hui, et les esprits mauvais au temps de notre Seigneur. Il y a eu également une femme possédée, rappelez-vous, qui suivait Saint Paul et Silas pendant plusieurs jours, confessant la vérité et disant, en effet, ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et il vous annonce la voie du salut. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 18. Oui, l'ennemi est vraiment rusé. À l'exception de ces faits, nous pouvons montrer par de nombreuses preuves que les démons approuvent et confirment toutes les doctrines ou théories considérées comme parfaites par les chercheurs afin de capter leur confiance et d'augmenter ainsi leur influence sur eux. En ce qui concerne la fameuse mine d'or, c'était un appât pour attirer et pour fixer l'attention que la vue des anges tombés puisse pénétrer plus profondément à l'intérieur du sol que celle des hommes que nous sommes. Cela est évidemment un sujet à caution. Qu'il existe de l'or en quantité suffisante pour rentrer une entreprise dans la plupart des filons orifères, c'est tout à fait possible. Mais les mineurs en général et ceux qui pratiquent les forages dans les terrains pétrolifères et qui se sont fait diriger par les esprits ou qui ont utilisé des baguettes divinatoires ont tous en définitive éprouvé de grosses pertes financières pour avoir suivi ces directions-là. Il faut admettre que si d'une part les esprits menteurs sont fidèles à leur attribution en faisant étalage de connaissances qu'ils ne possèdent pas toujours, d'autre part, leur méchanceté d'esprit séducteur les pousse à faire tomber les humains dans toutes sortes de chutes morales et mentales. Ils prennent plaisir également à les conduire, à conduire des chrétiens à la ruine financière. Les esprits menteurs sont comme les hommes menteurs. On ne peut se fier à eux et on ne peut les croire en aucune circonstance. Un jeune homme qui pratique ces choses et qui séduit une jeune fille chrétienne arrivera souvent à ses fins. Mais malheureusement, la pauvre jeune fille chrétienne aura beaucoup à souffrir à l'avenir. Beaucoup, beaucoup. Si nous examinons leur conseil d'enseigner, nous craignons que, provenant d'une telle source, ce conseil n'indiquât le point faible de notre sœur. Donc, cette sœur dont je suis en train de vous parler est celui sur lequel les démons avaient reconnu qu'ils devaient diriger leurs attaques. Il est donc sage de se persuader d'avance que leurs conseils sont toujours destinés à nous faire du mal et pas à nous faire du bien, directement ou indirectement. Tôt ou tard, à nous faire du mal. Et remarquez leur ruse perfide qui, pour détourner notre méfiance, va même jusqu'à citer des textes bibliques. Et oui, Satan connaît très bien la Bible. Il est donc certain que le peuple a besoin d'instruction. Et tous ceux qui instruisent sont des instituteurs. Mais, ce serait dangereux si chacun s'imaginait être instituteur. Moi, je ne pense pas que je suis un instituteur. car la voie la plus sûre pour chacun est d'être un élève, et je désire de continuer d'être l'élève à l'école de Christ, qui lui est notre grand professeur, et d'être disposé à recevoir ses leçons, et cela par certains canaux, ou d'être employé par lui, mon Seigneur, pour être employé par lui, pour en aider d'autres à bien comprendre ses enseignements, et je désire de les recevoir uniquement par l'Esprit Saint. Tout ce que l'on apprend du Seigneur Jésus-Christ doit être communiqué à d'autres, non comme notre propre sagesse, surtout pas, et comme notre enseignement personnel, mais comme ceux uniquement du Seigneur, et nous considérons nous-mêmes comme de simples canaux uniquement par lesquels ruisselle l'eau de la vie qui alimente d'autres personnes. Il n'est pas étonnant que le Saint-Esprit nous mette en garde, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que les instructeurs seront jugés beaucoup plus sévèrement. Je crois que ça donne la chair de poule, parce que c'est vrai. Notez Jacques, chapitre 3, verset 1. Le fait d'enseigner à d'autres suggère bien vite la notion d'une sagesse supérieure, et dès le début, ceci a été un des pièges utilisés par Satan. À notre mère Ève, il a promis comme récompense de la désobéissance qu'elle et Adam seraient sages comme des dieux. Ève a conclu, elle conclut de ses arguments que le fruit défendu était très désirable pour acquérir la sagesse. Et voilà en quoi consistait la tentation. Hélas, la sagesse que Satan accorde n'est pas du tout à rechercher. Elle est premièrement terrestre, deuxièmement sensuelle et troisièmement diabolique, comme un grand nombre de personnes l'ont reconnu, hélas, souvent trop tard. Au contraire, la sagesse d'en haut, la sagesse de Yahvé l'Éternel, elle est premièrement pure, deuxièmement pacifique, troisièmement modérée, quatrièmement conciliante, cinquièmement plein de miséricorde et de bons fruits, et sixièmement un exemple de duplicité et d'hypocrisie. Donc, c'est donc contraire, je dis bien, un exemple, contre toute hypocrisie. Jacques, chapitre 3, versets 15 à 17. Et on comprend aisément que l'apôtre inspiré ait dit, « Mais je crains bien que comme Ève fut séduite par l'astuce du serpent, ainsi vos pensées ne se corrompent et ne perdent leur simplicité, leur pureté à l'égard du Christ. » 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Je vous demande pardon si des fois, j'utilise peut-être pas toujours les mots exacts, puisque je suis de langue allemande et je peux peut-être une ou deux fois me tromper d'explication comme ça devrait d'être d'après la sainte parole de Dieu, et peut-être que je peux une fois me tromper, alors je vous demande de me pardonner. Chers amis, ne perdons donc aucune occasion de répondre, plutôt de répandre, voyez là, un lapsus. Nous devons répandre la bonne nouvelle avec une grande joie. Mais n'oublions jamais que si nous sommes des petits instructeurs, nous devons diriger comme frères et comme sœurs les choses en bon pèlerin, c'est-à-dire toujours vers la sainte parole et de prendre l'exemple de notre grand maître et uniquement vers celui des 12 apôtres qui ont été inspirés, qui ont été désignés par Jésus-Christ pour être nos précepteurs et nos instructeurs. Nous avons donc averti par la suite notre chère sœur qu'elle avait été très très imprudente et comment de désobéir aux instructions divines. Notez Ésaïe chapitre 8 versets 19 et 20. Car par un commerce quelconque, nous ne devons pas avoir un commerce quelconque avec tous ces esprits séducteurs. Nous devons absolument les rejeter, les éviter. Ce ne sont pas ces esprits-là que nous devons éprouver pour savoir s'ils sont de Dieu. Car Dieu nous a déjà avertis qu'ils ne sont pas du tout de Dieu, mais que ce sont des esprits mauvais. Donc, dans ce même ordre d'idées, nous aurions autant le droit de nous servir des paroles de l'apôtre Paul comme d'une excuse pour éprouver toutes sortes d'alcool de différentes marques. Pourquoi pas les tester, tous ces whisky, ces vodkas, puis je t'en passe, pour vérifier si l'un de ces alcools pourrait par exemple ne pas m'enivrer, hein? Pourquoi pas? Ou d'autres choses, hein? Il y en a tellement aujourd'hui. Ces esprits du malin, ils prétendront toujours être très bons. N'oublions pas qu'ils sont légions, ces esprits mauvais. Ils sont obsédants. Ils nous obsèdent. Ils peuvent aussi nous posséder, nous oppresser. N'ayons pas affaire avec ce monde-là. Ils ne demanderaient pas mieux que d'être éprouvés tous par l'humanité. Tout ce qu'ils demandent, c'est un essai ou une épreuve complète. Et voyez-vous, tôt ou tard, ils réussiront à asservir complètement la plupart de tous ceux qui les éprouvent, qui essayent de les tester. Dans le passage qui dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Premier épître de Saint Jean, chapitre 4, versets 1 à 6. Le mot « esprit » a le sens d'enseignement ou doctrine et ne se rapporte nullement à des êtres spirituels. Les versets suivants nous montre, il nous déclare que nous devons éprouver ou discerner entre esprit de la vérité et esprit de l'erreur. La distinction peut être rapidement faite, car toute fausse doctrine nie totalement, directement ou indirectement, que Christ est mort pour nos péchés, pour les tiens comme pour les miens, et ces doctrines nient également que Jésus-Christ, homme, s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors notre sœur, elle nous a envoyé par la suite une réclame du psychographe rédigée comme suit. Désirez-vous approfondir le spiritualisme? Comme c'est beau. Désirez-vous développer vos talents de médium? Désirez-vous recevoir des communications de l'au-delà? Si oui, le psychographe vous sera d'un grand secours, un secours inestimable. C'est presque mieux que le chocolat Frigor qui est fabriqué par Lind & Sprüngli. Nombre de ceux qui ignoraient leurs aptitudes de médium ont pu recevoir d'agréables communications après quelques séances. Toujours au début, c'est agréable. Nombre de ceux qui, au début, le considéraient comme un hoquet amusant, se sont rendus compte que l'intelligence qui le dirigeait avait beaucoup plus de connaissances que eux-mêmes, et ils se convertirent donc ainsi au spiritualisme. Il y a un homme dernièrement qui avait fait des essais. Il voulait tester certaines choses dans un hôtel de New York, des Desca. Cet homme aujourd'hui est tombé tellement dans la fosse profonde que sa femme a divorcé, qu'il ne peut plus jamais trouver un emploi aussi brillant qu'il a eu. Il aurait même pu devenir président de la France, de la France, et donc il est tombé au plus profond du bourbier parce qu'il a voulu tester des choses qu'il aurait fallu jamais essayer de tester. Satan a donc recours à la croyance commune à toutes les dénominations religieuses chrétiennes, aussi bien qu'au monde païen, d'après laquelle les morts ne sont pas morts, mais sont devenus des anges. Ils se trouvent tout autour de nous, ces fameux anges. Que pourrait-on concevoir de mieux combiné pour séduire toute personne qu'un tel jouet de Satan serait, soi-disant, absolument nécessaire? Oui, sous le titre « Pensée exposant les principes du spiritualisme » se trouvent les dangers qui assaillent le chercheur consciencieux, et il y a un livre qui a été écrit par Charles Dobran. Nous lisons l'analyse d'un ouvrage par un ecclésiastique anglais intitulé « Le grand secret ou le mystère moderne du spiritualisme » et l'article présente l'auteur de l'ouvrage en ces termes. Ses débuts ont été des expériences avec sa femme dont il développa les facultés de médium, écrivain et par l'intermédiaire de laquelle il reçut de temps à autre des messages propres à réjouir le cœur des adorateurs du phénomène. Il semble aussi avoir connu presque tous les médiums publics qui, à un moment quelconque, ont été de grands prêtres ou prêtresses, pourquoi pas, des sciences occultes parmi les respectables, bourgeois de Londres. Il faut être donc respectable et il faut surtout être un révérend respectable. Je plaisante. Il semble aussi avoir connu presque tous les médiums publics qui, à un moment quelconque, je le répète, ont été des prêtres et des prêtresses. Selon toute apparence, il a assisté comme hôte bienvenu, évidemment, à toutes les séances tenues chez les chercheurs de distinction ou chez les croyants de haute marque de cette ville pendant la période de 40 ans dont il nous parle. J'espère jamais avoir affaire avec tout ça. Il s'est occupé également d'hypnotisme, et à l'enregistre, il a enregistré nombre de succès, soit comme opérateur, soit comme sujet. Il s'est même occupé quelque peu de magie noire. Pourquoi pas ? Suffisamment, tout au moins, pour avoir la preuve, finalement, que c'est une effrayante réalité. Nous avons donc là un auteur admirable, respectable, qualifié pour traiter intelligemment ce sujet. Qu'il soit maintenant et qu'il ait été pendant presque toutes ces années un croyant confirmé, révérend d'une église respectable, cela est certain, car il relate des incidents et des preuves de nature à convaincre toute intelligence et tout esprit dépourvu de préjugés. Moi, évidemment, j'ai peut-être des préjugés. Mais il a eu à en subir les conséquences funestes qui sont le lot de tous les chercheurs expérimentés. Il a non seulement contemplé nombre de phénomènes explicables par l'influence normale ou anormale des humains, mais d'autre part, chaque fois qu'il s'est trouvé en présence d'un véritable esprit en action, des erreurs et parfois des fraudes manifestes ont apporté le trouble dans son âme de pasteur et révérend. Je suis trop peu intelligent, évidemment, pour risquer de pareilles choses. Mais je préfère être trop peu intelligent. Nous avons ainsi des faits saillants, à l'exception des expériences variées et ordinaires d'un chercheur intelligent moyen, mais un grain de blé dans une mesure de balle de froment constitué pour les spiritualistes une ample compensation pour la peine et les ennuis des longues années consacrées au service des chers esprits. J'aime mieux être au service de mon Sauveur et Seigneur. Pour quelqu'un, il en est peut-être ainsi, pour quelques-uns, mais d'autres ont fait des efforts considérables pour augmenter la moisson de vérité, et c'est ici que les expériences de cet ecclésiastique réputé sont intéressantes pour tous ceux qui cherchent la vérité dans le monde. Ainsi que nous l'avons vu, il assista à de nombreuses expériences dans des séances publiques et privées, mais il semble n'avoir pu faire aucun progrès réel. Après nombre d'années de pratique dans ce domaine, il éprouvait les mêmes mésaventures dans ses expériences spirites qu'au début des premières séances avec sa chère femme et quelques amis intimes. Oh là là ! Aussi, la question se pose-t-elle : est-il possible de progresser ? Pour résoudre ce problème, il se livra à une expérience qui suggère à l'auteur de cet article l'idée d'attirer cette attention sur son livre pour ce qui est du reste. Chacun peut le confirmer et dire « Je suis cela ». Il résolut de chercher à obtenir des communications d'esprit en réalisant les conditions humaines les plus parfaites pour vérifier si le proverbe qui se ressemble s'assemble est vrai et s'il pouvait attirer les esprits les plus élevés et éliminer ceux qui viennent de l'inconnu pour troubler et pour tromper les humains abattus. Moi, personnellement, je pense et je crois fermement que même ces esprits très élevés, il vaut mieux, et je le répète, prendre les jambes à son cou et filer plus vite que possible. Il consacra donc une moisson à cette fin. Il y avait non seulement des chambres à l'usage des médiums et des réunions de chercheurs ou de croyants, tiens, il faut bien qu'il y ait des croyants, mais une chapelle qui fut aménagée, pourquoi pas, en vue d'un service religieux célébré deux fois par semaine, et c'est après ce service qu'une séance spirite pouvait avoir lieu. Oh là là, quel mélange! Le décor était vraiment solennel. Eh bien, évidemment, il faut bien que ça soit solennel. Toute frivolité en était bannie. Eh bien, je ne le crois pas. Les esprits avaient donné l'assurance que de merveilleux résultats seraient obtenus. Ces réunions se poursuivirent pendant plus d'une année régulièrement, et puis pendant des séries de plusieurs mois de suite, mais souvent en vain. Aucune promesse ne fut tenue. Mais, chien, je ne comprends pas que ce célèbre révérend n'a pas appris à savoir que le menteur de tous les menteurs, c'était Satan. Les prières adressées à Dieu pour obtenir la lumière et la vérité n'eurent pas plus d'efficacité que l'Éternel, mon Dieu, plus près de toi, accompagnant les séances publiques ordinaires avec leur auditoire très mélangé de croyants et de non-croyants, de bouddhistes, de mohammedistes et d'autres istes. Notre pauvre ecclésiastique a ainsi obtenu son grain de blé après 40 années d'honnêtes tentatives pour en obtenir un kilo tout au moins. Eh bien, j'aime mieux utiliser 40 années au service du Seigneur sans essayer des choses scabreuses. Éloignons-nous de tout cela, mes chers amis, et totalement. Alors, je sais, ce cher ecclésiastique, il se cramponne à cet atome de vérité de toute son âme, mais toutes ses tentatives sérieuses pour progresser ont démontré l'échec complet qu'il rencontra toute sa vie, malgré des conditions de réussite favorables uniquement en apparence. Comme cette expérience est celle de milliers de croyants, je me demande si c'est vraiment des croyants zélés même. J'aime mieux être zélé pour le Seigneur, qui sont devenus ensuite des croyants silencieux pour la même raison. Et nous pouvons bien poser la question, est-ce que le spiritualisme moderne est-il borné et limité comme les systèmes théologiques du passé et du présent? N'y a-t-il pas d'espoir de résoudre ces problèmes, de rompre ces barrières et d'atteindre un plus haut degré de perfection humaine de ce côté-ci de la ligne de démarcation des deux vies? Est-ce que le chercheur honnête et qui est convaincu doit bientôt se décourager d'une façon presque inéluctable? La prétention des spirites d'après laquelle les bons esprits, soi-disant, entrent en communication avec les bons d'entre les humains, les mauvais esprits avec les humains doués de même disposition, est donc fausse. Est-ce possible d'avancer une meilleure preuve que celle-ci, c'est-à-dire à savoir que toutes ces communications spirites proviennent d'esprits du mal à qui on ne peut accorder aucune confiance, et moi je leur accorde aucune confiance, jamais. Et l'auteur nous relate plus loin que dans le même journal le récit des expériences d'un autre croyant dont il se porte garant. Pendant une vingtaine d'années, fidèle à ses convictions, il s'est efforcé de ramener toutes ses croyances à des bases reposant sur des faits bien établis. Ses facultés sensitives naturelles lui permettaient de s'approcher des esprits, parfois des ondées de bénédiction avait semblé descendre du ciel entrouvert dans son âme. Mais les ennemis arrivèrent aussi rapidement que les amis dès que la porte fut ouverte. Évidemment, il faut être stupide pour pas avoir compris cela. Aussi sa sécurité le contraignait-il, contraignait-elle, donc c'est une elle, d'éviter les expériences personnelles provoquant le retour des esprits. Une intelligence très active ne laisse que peu de prise aux esprits. Aussi accepta-t-il, là c'est il, une charge publique, pourquoi pas, et il travailla avec zèle pour le bien public. Mais ces expériences recommencèrent d'une manière intermittente, comme s'il devait livrer de nouveau une bataille complète chaque fois. Il ne pouvait trouver pourquoi ses ennemis apparaissaient de nouveau, mais il semblait avoir certains lieux de réunion attitrés. Par exemple, il pouvait rarement visiter une bibliothèque publique pour choisir un ouvrage, sans être obsédé et ennuyé pendant des heures par quelque puissance invisible cherchant à le diriger. À vrai dire, à chaque lutte victorieuse succédait une courte et heureuse communion avec des anges amis. Je me demande vraiment si vraiment ces anges étaient des amis. Mais le sentiment du danger le rendit d'autant plus désireux de fuir tout nouveau contact avec les esprits. Sa méthode de combat contre ces influences néfaste consistait à concentrer son intelligence sur un sujet intéressant concernant ses occupations journalières. La suite prouva que c'était bien là le véritable remède. Toute tentative de s'affranchir en s'appuyant sur les facultés spirituelles vitales de l'individu semblait augmenter l'influence de l'ennemi. Cet homme avait fait des progrès évidents dans le spiritisme et était devenu un médium à perception auditive. Je ne savais pas qu'il fallait être un croyant du Seigneur pour arriver à être performant dans ce domaine. Les prétendus bons esprits ou anges amis qui le visitaient de temps à autre étaient simplement les mêmes esprits que ceux qu'il considérait comme des esprits ennemis. Mais il se présentait à lui en assumant un rôle entièrement opposé lorsque il le sentait s'échapper et d'échapper à leur influence afin de prévenir un abandon complet de sa part et avec l'espoir que peu à peu il pourrait acquérir sur lui une influence dont il ne pourrait plus jamais se libérer. Nous lisons dans le même journal sous le titre « Incidents et conseils pratiques ». Après la mention de deux cas de folie accentuée résultant directement d'obsession spirite, le conseil était le suivant. La leçon que je tire est la suivante. Ne soyez jamais seul s'il y a la plus légère probabilité que l'influence spirite vienne s'emparer de votre raison. Ne permettez pas à une influence ou à une direction spirite de faire ce que votre jugement n'approuve pas, quelles que soient les assurances qui vous sont données. Seules des influences néfastes ont recours à de pareils moyens. Ces cas nous rappellent qu'il y a nombre de personnes dans des asiles de fous qui sont simplement victimes de possession. Et cela est absolument vrai. Tous les fous ne sont pas fous comme on croit. Je vais citer un autre cas. Une jeune femme, pendant sa première séquestration, fut traitée au chloroforme et par d'autres procédés qui ont affaibli totalement son système à tel point qu'un esprit corrompu a pu s'emparer d'elle et le langage qu'il fit tenir à cette jeune fille qui était autrefois très moral, est devenu carrément scandaleux. Dans de telles conditions, elle fut internée dans un asile de fous où elle se trouve maintenant. Bien sûr, on appelle cela des sanatoriums pour guérir des problèmes psychiques. Selon les dernières nouvelles reçues, elle peut parfois reprendre possession d'elle-même et naturellement, dans ces moments-là, les autorités médicales la considèrent comme revenue à l'état normal. Nous ajouterons, prenons bien soin d'examiner de très près tous les soi-disant cas de folie avant d'interner ces personnes dans des asiles d'aliénés car il peut toujours se présenter des cas analogues à ceux que nous venons d'énumérer. Le spiritisme est vraiment une puissance d'égarement. C'est une puissance de Satan. En effet, nous voyons des individus qui, après avoir eu des preuves éclatantes et tous les désastres qu'ils causent, s'y adonnent parfois à nouveau. C'est curieux, hein? C'est comme le buveur et le fumeur. Pourquoi pas réessayer une cigarette? Pourquoi pas réessayer une bouteille de vodka? Non. Et alors, il s'adonne à nouveau, même après avoir été sérieusement endommagé, comme des papillons. Vous savez, les papillons de nuit, ça existe. Et quand ils se brûlent légèrement, hein, les ailes, retournent curieusement à la lueur mortelle qui les fascine tellement que pour finir, ils seront rôtis. Il y a aujourd'hui un voile d'épaisse obscurité qui recouvre la vérité divine. Lorsque des personnes réfléchies s'éveillent de l'engourdissement qui avait obscurci leur faculté de raisonnement touchant la religion, elles réclament à grands cris de la lumière et encore plus de lumière. Si elles n'obtiennent pas la véritable lumière de la connaissance de Dieu qui donne la lumière uniquement pour les croyants absolument sincères et consacrés, qui ont la foi en la rançon, elles sont prêtes pour les fausses lumières, lumières du Dieu de ce monde et de Satan, qui cherche à les faire tomber toutes dans la haute critique appelée encore agnosticisme, dans le spiritisme, dans la science chrétienne ou dans la théosophie ou dans la scientologie ou chez les mormons. Ces doctrines séduiraient même les élus s'il était possible. Elles peuvent être considérées comme des agents de Satan déguisés en anges de lumière. Et vous savez que, droit maintenant, ces jours-ci, il y a dans le monde entier une révolution islamiste extrémiste qui casse tout pour soi-disant un petit film stupide, évidemment, ou pour peut-être un petit article dans un magazine, et ils cassent tout dans le monde entier, ils font des dégâts épouvantables, et soi-disant que Dieu, Allah, je ne comprends pas bien, moi je ne pense pas que leur Dieu est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël, Yahvé l'Éternel, El Shaddai, Elohim. Je ne crois pas que c'est ça leur Dieu. Et que je ne crois encore moins que Mohammed est à comparer avec Jésus-Christ qui est venu pour nous sauver, pour nous apporter le salut, pour être mort à la croix où il a versé son sang précieux pour nous racheter. Moi, je ne crois pas que c'est pareil. Je ne le crois pas. Et je ne le croirai jamais. Vu les réactions de révolte et de haine que ça suscite, la vraie foi en Jésus-Christ ne fait pas de nous des casseurs et des révoltés dangereux, capable de tuer autour de nous. Donc il y a un problème, hein.